Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Voilà, je continue de m'inspirer de mon livre « Comprendre la culture générale » qui est paru chez Ellipse à Paris il y a une vingtaine d'années maintenant et dont je prépare une réédition sous forme de livre numérique. Alors, nous en sommes au chapitre 2 de cet ouvrage qui concerne le destin des constructions symboliques. Et l'épigraphe, justement, de ce chapitre est une phrase d'Elifort: « Tout se construit par le cœur et se détruit par l'intelligence ». Donc, une construction symbolique dont est faite, évidemment, une culture, va s'édifier par adhésion affective. Et par consensus, si vous voulez, social. Et ensuite, au sein justement du groupe social concerné, l'intelligence va s'éveiller et à la faveur de la paix procurée par la présence dans l'esprit des constructions symboliques, à la faveur de cette paix, l'intelligence va critiquer ces constructions symboliques qui lui ont permis de se manifester. C'est donc une espèce de paradoxe, hein. L'intelligence se dresse contre ce qui lui a permis de s'exercer. Alors, nous en sommes donc, puisque nous mesurons les étapes de cette déconstruction des constructions, cette mise en question justement des constructions, nous en sommes au 19e siècle et nous pouvons parler du positivisme. Le positivisme d'Auguste Comte est célèbre par cette fameuse loi des trois états qui se trouve dans le cours de philosophie positive. Donc, avec cette loi des trois états, vont mourir à la fois devant les faits et les figures symboliques des dieux, les constructions symboliques des religions antérieures. Alors, quels sont-ils ces trois états? Premièrement, l'état théologique ou fictif. Dans cet état, les hommes, ne pouvant comprendre les vraies causes ou raisons des choses, introduisent les dieux. Par exemple, la foudre sera la colère de Zeus, la tempête sera le déchaînement d'Éole, le dieu des vents, ou bien de Poséidon, le dieu de la mer, etc. On interprète tout par l'intervention des dieux. Deuxième état, l'état métaphysique ou abstrait. C'est une variante du premier état. Les dieux y sont remplacés par des abstractions, ou des vertus, ou des qualités. On dira par exemple que l'opium fait dormir parce qu'il a une vertu dormitive. Les corps tombent parce qu'ils ont une vertu pesante. Le pain nourrit parce qu'il a une vertu nutritive, etc., etc. Alors, le troisième état, c'est l'état positif. Cet état va annuler et invalider les deux premiers. Et il consiste à expliquer les phénomènes par leur vraie cause ou raison. Ainsi, la foudre sera un phénomène électrique, une différence de potentiel, reproductible expérimentalement. La tempête sera un phénomène météorologique, une différence de pression barométrique. Et l'opium fait dormir, non pas parce qu'il contient une vertu dormitive, mais parce qu'il contient telle ou telle substance qui agit de telle ou telle façon sur les centres nerveux. Le pain nourrit de la même façon parce qu'il contient telle ou telle substance qui est métabolisée ou transformée en énergie par l'organisme et de telle ou telle manière. Les corps tombent, non pas parce qu'ils ont une vertu pesante, mais parce qu'ils sont attirés par le centre de la terre, etc. Les vertus ou qualités du deuxième état sont des causes occultes qui ne sont connues que par leurs effets. On explique donc l'obscur par le plus obscur, comme on dit en latin « obscurum per obscurius ». On se croit au sommet de l'intelligence en invoquant ses vertus ou ses qualités, mais en réalité, on ne fait qu'agiter de l'air avec les organes de la voix. Ce sont des souffles sonores, flatus vocis, comme on dit en latin encore, vous voyez. Donc, ce qui est important, c'est que pour Auguste Comte, l'évolution des deux premiers états au troisième est irréversible, absolument irréversible. Les fausses sciences sont remplacées par les vraies sciences. Ainsi, l'alchimie sera remplacée par la chimie, l'astrologie sera remplacée par l'astronomie, etc. Et ainsi, le monde va se vider de ses constructions ou symboles qui jusque-là étaient vivants. L'alchimie, par exemple, initialement, avait un contenu psychologique profond, comme Jung l'a montré dans son livre « Psychologie et alchimie ». Mais ensuite, au lieu de voir dans les trois états une multipolarité de l'esprit humain, capable d'appréhender le monde de différentes façons, chacune étant légitime dans son ordre, le penseur positiviste va désenchanter définitivement le monde, et ce qu'on ne peut voir, ce dont on ne peut pas constater l'existence expérimentalement, tout cela n'existe pas. Un chirurgien de la fin du XIXe siècle disait « Je n'ai jamais rencontré l'âme au bout de mon scalpel ». Vous voyez donc l'orientation de cet esprit. Alors à ce compte, pourquoi ne pas peser le corps avant et après la mort de l'individu pour déterminer par soustraction le poids de l'âme ? Vous voyez qu'on aboutit ici à des choses assez risibles. Néanmoins, cette loi des trois états a été à l'origine de ce qu'on appelle le scientisme. C'est un nouvel état d'esprit, appelé aussi culte de la science, hein, et un personnage comme Monsieur Homé, le pharmacien de Madame Bovary de Flaubert, est l'incarnation de cet état. Par l'orientation de son esprit, il figure assez bien l'homme moderne qui est plein de suffisance, c'est-à-dire de vanité, et aussi d'insuffisance, c'est-à-dire qu'il manque de profondeur. Hein. On a parlé à propos du scientisme de religion. Pensez par exemple au roman de Jules Verne, à l'œuvre tout entière de Victor Hugo. Ces œuvres sont animées d'une grande foi dans le progrès de l'humanité. Par accroissement de la connaissance, l'homme va indéfiniment augmenter ses capacités. Ainsi, Victor Hugo disait « Ouvrez une école et vous fermez une prison ». Mais alors plus tard, Prévert dira « Qu'ouvrir une école est aussi ouvrir une prison », vous voyez. Hein. Comte lui-même a fini dans le religieux et la mystique, donc esprit religieux dans ce scientisme. Mais en fait, cette foi scientiste, d'abord, elle pêche par un optimisme naïf et béat, hein, que les catastrophes du XXe siècle ont mis à mal. Pensons par exemple à la bombe atomique, à Hiroshima. Hein. Et aussi, cette foi scientiste est insuffisante. Par l'invalidation présomptueuse et péremptoire qu'elle fait des anciennes constructions symboliques. Donc je crois qu'il y a un fanatisme et une intolérance du scientisme qui viennent de son étroitesse d'esprit. En effet, la science nous dit comment les choses se passent. Mais pourquoi elles se passent de telle façon et non de telle autre, jamais la science ne nous le dit. Or, le pourquoi est bien ce qui nous concerne. Par exemple, comment se produit un cataclysme, un tremblement de terre ou un raz-de-marée ? Ça, c'est une chose, hein. Mais pourquoi se produit-il ? Pourquoi frappe-t-il tel ou tel et non pas son voisin ? Ça, c'est une autre chose. Et il n'y a que le mythe, le récit, l'imaginaire et les images en général qui répondent à cela, vous voyez ? La chimie, elle me dit que je suis un composé d'eau et de carbone. Mais le sens d'un regard, d'un sourire, de l'expression d'un visage, la chimie ne m'en dit rien. Hein. Un sourire humain n'est pas fait d'hydrate de carbone. Hein. Pas plus qu'un son ne se réduit à une vibration en musique. Hein. Il y a aussi la résonance dans l'esprit qu'il faut prendre en compte. La science, en fait, n'a aucune valeur ordonnatrice de la conduite humaine. Les valeurs, en général, lui sont étrangères. Elle inventera l'anesthésie, par exemple, mais elle ne nous dira pas comment on doit élever un adolescent, vous voyez. Et le génie de Pascal, un scientifique pourtant, s'est rattaché à la fin de sa vie au scapulaire, c'est-à-dire un chapelet, par exemple, hein, vous voyez, hein. Pascal a bien délimité les limites de cette raison, les frontières de cette raison scientifique. Tout le pouvoir de la science ou de la technique ne nous dira jamais pourquoi nous vivons. Hein. Malraux disait « À quoi sert d'aller sur la Lune si c'est pour s'y suicider ?» Vous voyez, la pensée scientifique, quand elle est réduite à elle seule, c'est une pensée, je dirais, simple, une pensée calculante et non pas une pensée méditante. On n'est pas cultivé parce que l'on sait se repérer seulement dans un plan du métro. Hein. La logique habituelle de type informatique, par exemple, hein, la logique du « if go to » ou bien du « if then else hein, » n'a rien à voir avec des logiques complexes et contradictoires du type d'union des opposés ou oxymoriques hein, que l'on voit dans les constructions culturelles les plus élaborées. Nous parlerons de cela dans une émission future. Hein. L'inutile est parfois l'essentiel. Hein. Valérie disait très justement « La science est l'ensemble des recettes qui réussissent toujours, tout le reste est littérature. » Voilà, alors nous allons envisager maintenant un point dont la formulation est paradoxale, c'est la question de la barbarie savante. En effet, aujourd'hui encore, il y a une idolâtrie et une superstition très répandue de la science. Des mots comme « scientifique »,« scientifiquement prouvé » sont des mots magiques pour l'homme moderne. Il suffit de voir les slogans de la publicité, hein. On s'étonne d'une telle crédulité, mais je crois que c'est une nouvelle superstition qui apparaît, une superstition particulière, la superstition du fait, F-A-I-T, vous voyez, hein. Et alors on pourrait voir là, dans le destin des constructions symboliques, comme une boucle qui se referme. Partie du règne du fait, hein, F-A-I-T, de la nature et de la barbarie, le monde entier de la culture s'est progressivement détaché du monde de ce fait, hein, du fait, pour construire et se proposer des perspectives fictives ou symboliques. Et ensuite, après s'être relativisé en s'ouvrant sur d'autres possibles, nous avons vu cela avec le relativisme lors des émissions précédentes, eh bien ce monde-là reviendrait aujourd'hui en se dénonçant lui-même comme imposteur à un nouveau monde du fait, mais le fait scientifique, le monde du fait scientifique. Ce fait-là est seul pris en compte et comme adoré, ou posée comme instance dernière. Vous voyez, donc on part du fait brut, on le transforme justement en fiction, hein, mettons les faits FES, hein, bon, et ensuite, à cause de la science, eh bien, les faits FES sont remplacés par les faits FAITS, en quelque sorte. Hein. Les fictions sont annulées et on a la superstition seulement du fait matériel. Alors, on dit du polytechnicien qu'il sait tout et rien d'autre. Alors, bien sûr, c'est une formule polémique et injuste, bien sûr, mais elle signifie un état d'esprit, et on peut l'appliquer en général aux scientifiques positivistes. Et alors, on ferait retour, dans ces conditions, à une nouvelle barbarie, ou à une barbarie d'un nouvel ordre, une barbarie savante, vous voyez ? Et on peut concevoir toute la modernité scientifique et technicienne comme une barbarie. C'est ce qu'a fait naguère un professeur montpelliérain, Michel Henry, dans son livre « La barbarie ». Alors, maintenant, revenons à cette barbarie première, hein, parce qu'il conviendra de dire en quoi consiste la barbarie scientifique, en analysant, nous le ferons dans les émissions futures, la spécificité du langage symbolique. Mais prenons garde qu'aussi, on revient peut-être aujourd'hui bel et bien à la barbarie première, à la barbarie brute, à la sauvagerie primitive. Pensez à la jungle des grandes villes modernes, asphalt jungle, la jungle de l'asphalte, vous voyez. Pour l'expression, voyez la pièce de Brecht dans la jungle des villes. Le peuple soudé des époques de culture s'atomise à nouveau aujourd'hui en foule qui va éclater à nouveau en horde, gang ou bande soumis à la seule force d'un chef. Vous voyez, nous avons opposé dans une émission précédente les foules et les peuples. Les foules n'ont pas de construction symbolique et les peuples sont soudés par adhésion collective à une construction symbolique, à un rêve qu'ils partagent en commun, vous voyez. Alors, l'histoire nous apprend que déjà des mystiques irrationnels d'un guide avaient galvanisé une Allemagne par ailleurs savante et positiviste, comme Reich l'a montré dans sa psychologie de masse du fascisme. Hein. La mystique irrationnelle répondait à la pensée mécanique, pour reprendre une opposition de Bergson. C'est Bergson qui opposait mécanique et mystique. Hein. Mais aujourd'hui, les barbares sont aux portes des villes. Je pense à des films prémonitoires comme Orange Mécanique de Stanley Kubrick, qui est inspiré d'un livre d'Anthony Burgess. Hein. Ce sont, je répète, des œuvres prémonitoires, puisqu'elles montrent la fin de certains cycles où se consomme le destin des constructions symboliques. Sur les ruines de ces constructions, le monde moderne mêle les savants qui se moquent de ces constructions symboliques et les incultes qui ne les connaissent pas. Donc nous avons deux barbaries, d'abord la barbarie savante et deuxièmement la barbarie brute, hein, la déculturation étant en voie d'être complète. Et la science-fiction, à cet égard, est prophétique. Voyez les romans de Philip Dick, par exemple, « Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ?» dont a été tiré le film « Blade Runner ». Et représentants de l'apocalypse urbaine sont des films comme « Terminator » ou Robocop, Mad Max, etc. Ce sont les cauchemars des cultures hyper technicisées. Alors, le retour des hordes, hein, eh bien, nous le voyons aujourd'hui. Les hordes urbaines apparaissent lorsque l'opposition éternelle des riches et des pauvres n'a plus de construction symbolique forte ancrée dans les esprits pour la représenter et la mettre en scène. Vous voyez, hein. La religion chrétienne traditionnelle parlait en Occident de l'éminente dignité des pauvres. C'est une expression de Bossuet. Et le franciscanisme avait pris le parti de la pauvreté voulue, assumée, choisi. Puis le marxisme a relayé cette vision religieuse. Tout est transposable terme à terme. Il y a un peuple élu, le prolétariat, un messianisme et un salut que portent les classes laborieuses, une espérance, la venue d'une société sans classe, des lendemains qui chantent pour tous. L'international donne foi aux travailleurs avec lyrisme, comme les prophètes juifs en leur temps, et Marx était juif, ils en appelaient à la conscience humaine, ces prophètes, à la conscience humaine, pour lutter contre l'injustice. Et c'était une vision hautement symbolique d'un sens trouvé dans les épreuves et d'une rédemption proche ou possible. La vie n'était pas absurde. Les gens pouvaient espérer. Alors, par exemple, on a pu traduire, par supposition d'un substrat hébraïque, les béatitudes évangéliques. Eh bien, elles ressemblent à l'international. Je pense à la traduction que fait Chouraki. Il dit ainsi « en marche les humiliés du souffle ». Eh bien, cela fait bien penser à « debout les damnés de la terre », vous voyez ? Alors, je ne sais pas si cette traduction peut s'autoriser, justement, par la référence à l'hébreu. Je ne sais pas si « makarioi », par exemple, en grec, je sais, ça ne signifie pas « en marche ». Bon, peut-être y a-t-il derrière un substrat hébreu qui signifierait « debout », je ne sais pas. Alors aujourd'hui, le marxisme s'est décomposé. Tout ce qui donnait sens, justement, à la pauvreté n'existe plus. Les pauvres ne sont plus rien, ou ils sont l'objet du plus total mépris. L'argent s'étale partout, avec la plus grande indécence et la plus grande obscénité. Or, il y a toujours une nécessité constante pour les cultures d'une mise en scène, d'une représentation donatrice de sens. Si la mise en scène vient à disparaître, on passera de la mise en scène à l'obscène, vous voyez. Regardez les trottoirs de nos villes, devant les vitrines regorgeant de richesses, et actuellement ça va de l'époque de Noël, cette grande fête de la consommation, alors qu'initialement Noël ne devait vanter que la pauvreté, les tables, le dénuement, etc. Eh bien, devant ces vitrines où il y a plein de richesses, les clochards sont allongés. Alors on parle de la violence urbaine, mais pourquoi ne pas parler aussi de la brutalité des villes, comme le disait Jean Genet, qui a bien opposé violence et brutalité. En effet, il y a brutalité ou provocation indécente à mettre sous les yeux des gens et à porter de leurs mains tant de choses séduisantes que jamais ils ne pourront acheter. Alors il y a un teasing ou un aguichage constant des devantures des magasins, des panneaux publicitaires ou des clips, et c'est cela qui est obscène. En effet, certains meurent de faim et d'autres achètent des aliments pour leurs animaux de compagnie. Le plaisir des chats difficiles, a-t-on pu entendre. Alors comment s'étonner après cela qu'à la brutalité d'une civilisation qui ne croit qu'à l'argent et qui l'étale, répondent la violence des pauvres, des marginalisés et des frustrés. Un publicitaire en naguère, Jacques Séguéla, je crois, qui avait fait la campagne socialiste à l'époque de Mitterrand, avait dit « si on n'a pas, je crois, de Rolex à 40 ans ou à 50 ans, on a raté sa vie ». Mais quelle obscénité il y a là-dedans. Alors, aux riches, le Rolex, au bling-bling, si vous voulez, ils auront le Rolex, les pauvres, ils auront le Solex seulement, vous voyez. Bon. Alors on peut imaginer que les riches devenant de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, dans une mégapole déshumanisée, que se constituent des hordes de pauvres et de laissés pour compte, dans un premier temps rançonnant la population, puis prenant les places de la pègre. C'est ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 1930 et que montre Fritz Lang dans M. le Maudit. Le parti national-socialiste est né de là, c'est un national-populisme, mais sur fond de foule ou de horde, puisque le peuple s'est décomposé. Alors on commence par faire la manche et on va finir par la horde. Il faut aller jusqu'au bout de l'insécurité. Tous répètent d'ailleurs, les bandes armées existaient au XIIe siècle, au Moyen-Âge. Simplement, le décor a changé. Les anciennes jacqueries des gueux se reproduiront dans les jungles urbaines, vous voyez. Alors, on se félicite aujourd'hui du déclin des anciennes idéologies fédératrices. On applaudit à la fin du marxisme. Mais que met-on à la place, hein? L'argent roi, le règne inexpiable de l'argent dont parlait Charles Péguy. En pays totalitaire, on n'a pas de liberté. En pays libéral, on n'a que la liberté de choisir sa marque de lessive. On est simplement passé des barreaux de prison au code barre, si vous voulez. Et si on n'a pas d'argent, on n'est rien. On adore à nouveau le fait brut de la richesse et de la puissance. C'est Dallas et l'univers impitoyable. Retour est fait, on veut revenir aux lois naturelles. Et on a inventé le darwinisme social de très fâcheuse mémoire, déjà mise en scène par Zola dans Au bonheur des dames, puisque le grand magasin va dévorer le petit commerce. Ce succès total et indécent du capitalisme laisse un énorme vide symbolique. Le nihilisme est général dans les esprits sous couleur de pragmatisme, comme Nietzsche l'avait dit dans le nihilisme européen. Et finalement, l'Occident, repu et nanti, investit dans la sécurité qui est l'obsession de notre temps pour répondre à la violence des pauvres. Le digicode protège de la rue et la société devient duale, deux mondes se côtoient sans se rencontrer. Les reclus face aux exclus. La violence des pauvres est inévitable, car ils n'ont plus d'idéologie ou de religion pour la canaliser, pour représenter leur situation et pour la penser. Alors, le marxisme était peut-être, pour reprendre un mot de Raymond Aron, l'opium des intellectuels, mais il était la raison de vivre des prolétaires, et il faut y regarder à deux fois avant de détruire une construction symbolique. Et là est le point essentiel où bute l'intelligence moderne. Les constructions symboliques, dit-on aujourd'hui, n'ont plus de sens. Elles sont si diverses, il y en a tant eu, peut-être, mais ce qui n'a pas de sens me semble avoir un sens supérieur à ce qu'il y en a. Regardez ce que dit René Char. « Obéissez à vos porcs qui existent, je me soumets à mes dieux qui n'existent pas. » La Bible nous dit « Sans vision, le peuple périt ». Est-ce que c'est une vraie vision, ce qu'on propose à l'homme moderne, devenir un actionnaire, se plier à la logique de la société marchande, au capitalisme mondialisé, à la financiarisation de l'économie, qui ne recherche que le profit et qui ignore l'humain? Les constructions symboliques sont autres. Vous voyez, j'aime bien le film « Goodbye Lénine ». On voit que l'Allemagne démocratique, quand le mur s'est effondré à Berlin, eh bien, a été réuni justement à l'Allemagne de l'Ouest, mais il y a une nostalgie de communisme même dans ce pays-là, ce qu'on appelle l'ostalgie, la nostalgie de l'Est, si vous voulez. Donc je ne dis pas qu'il faut revenir au communisme, sûrement pas, mais il faut quand même donner de l'espoir aux gens, leur faire miroiter un idéal. Alors, je résume, se constituer et s'unir ensemble en poursuivant un rêve, puis se désagréger et se dissocier sur les décombres et la décomposition de ce rêve, voilà le cycle de la vie d'un peuple. L'homme vit sa pleine humanité de ses constructions symboliques et il meurt de leur désagrégation. Voilà, chers auditeurs, on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite de cette réflexion. Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.